Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Mare Nostrum. Aujourd'hui, c'est le 109e numéro et nous allons encore une fois aller nous promener en Méditerranée pour comprendre ces pays, ces civilisations, ces traditions, ces sociétés, etc., etc. Et tout ça parce que nous avons des invités qui sont des spécialistes et qui vont répondre à nos questions et qui vont donc nous parler de leurs travaux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un État qui a une longue histoire, et c'est l'Empire ottoman, qui a exercé son autorité sur une bonne partie de la Méditerranée, pendant pas mal de temps, pendant plusieurs siècles. J'ai dit 13e, 20e, je pense que c'est à peu près ça.
Oui, oui.
Merci d'approuver. Nous y évoquerons en particulier la situation des femmes, qui font partie de l'élite, dont le statut se trouve d'être un peu une exception pendant les périodes médiévales et modernes. Mais ça, vous le préciserez avec ma première question. Pour en parler, donc, je reçois Juliette Dumas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à la MMSH, à Aix-Marseille Université, dont nous sommes partenaires. Et vous faites partie de l'IREMAM, c'est-à-dire l'Institut de Recherche et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman. Vous êtes spécialiste de l'Empire ottoman dans la période moderne et plus précisément dans les rapports de la femme aux politiques. Pour vos recherches, vous avez fait plusieurs séjours, même assez longs d'ailleurs, en Turquie, à l'Université du Bosphore et à l'Institut français d'études anatoliennes. On va commencer par cette question que j'ai un peu avancée là dans mon introduction. Comment se situe la place de la femme en général dans l'Empire ottoman par rapport aux autres pays à l'époque moderne? Est-ce qu'elle a une position particulière, qui aurait attiré votre intérêt?
Oui, alors effectivement, en fait, je vais poser la question surtout par rapport à ce qui se passe en Europe, au même moment, donc en Occident, puisque l'Europe n'existe pas encore à ce moment-là. Et je m'étais posé la question de voir les similitudes, ce qu'il y avait de ressemblant et en quoi éventuellement il y avait des différences. Et ce qui est le plus frappant peut-être, c'est finalement la grande proximité des configurations. Alors, je vais m'expliquer un petit peu parce que ça paraît pas évident à première vue. Il y a un certain nombre de caractéristiques fondamentales qui permettent d'expliquer un petit peu cette proximité. Pour ce qui est de l'élite, puisqu'il faut pas mélanger, toutes les femmes ne sont pas ne sont pas logées à la même enseigne, hein. Il y a des différences très, très profondes en fonction de la hiérarchie et des statuts. Pour ce qui est de l'élite, ce qui est le plus marquant des différents côtés de la Méditerranée, on va dire, c'est le rapport à la société de cour. L'Europe est en configuration de société de cour, hein, c'est bien connu, c'est l'ouvrage de Lucien Bellis sur la société de cour, justement. C'est ses rapports à la noblesse, etc. En fait, c'est à peu près la même configuration qu'on retrouve dans le système ottoman. Pas forcément spécifique au système ottoman, mais c'est particulièrement marqué dans le système ottoman. Alors, il n'y a pas à proprement parler de noblesse, en tout cas dans le sens où on peut l'entendre en Europe, de noblesse du sang liée à la terre. Personnellement, moi, je pense qu'on peut définir le système ottoman dans un rapport nobiliaire, mais il faudrait préciser sous quelle forme. En tout cas, c'est un rapport nobiliaire différent de la manière dont il se formule en Europe. Dans tous les cas, ce qui est central, c'est le rapport à la personne royale, au souverain, et le fait que le pouvoir dérive de la proximité du chef. Et évidemment, le souverain sert toujours de marqueur et de reproduction, de modèle en fait, pour les autres. Et donc, cette idée que celui qui est proche du chef, finalement, a du pouvoir, se reproduit du sultan à tous les autres personnages. C'est exactement ce qu'on trouve dans la société nobiliaire européenne, occidentale. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le système ottoman, en fait. Donc là, c'est au niveau de la configuration de ce qui est de l'élite, on est vraiment dans un système très proche qui fait que finalement, les femmes se retrouvent aussi dans un système très proche. Je pense qu'on en reparlera après sur la question du pouvoir.
Oui.
Mais c'est vraiment un point central. C'est pour ça que je le dis tout de suite. C'est cette proximité de structure du pouvoir, en fait. La deuxième chose, alors si on sort un petit peu ou si on agrandit un petit peu le domaine plus généralement dans les autres éléments de proximité, c'est d'une part le système patriarcal, qui est très dominant dans toute l'Europe et qui est tout aussi dominant du côté ottoman. Et c'est pas propre aux Ottomans, là en l'occurrence on le retrouve dans beaucoup d'endroits, et de pair avec ce système patrimonial, évidemment, c'est le rapport à la religion monothéiste. On parle pas de la même religion, on est bien d'accord, mais c'est quand même le même socle, un socle assez proche, un socle avec beaucoup d'éléments communs, et en tout cas dans ce qui est des rapports justement entre des rapports de genre, entre le masculin et le féminin, on est vraiment sur les mêmes logiques, sur les mêmes principes. Et donc, tout naturellement, on va retrouver des déclinaisons très proches du côté occidental et du côté oriental. Tout cela pour dire que, oui, en fait, pour moi, il y a beaucoup de ressemblances dans les rapports que les différentes positions de femmes peuvent avoir dans leur expérience, que ce soit dans l'Empire ottoman ou en Europe, toute hiérarchie et position sociale représentée. Ensuite, évidemment, il y a des différences. Et la différence peut-être la plus importante, au fond, elle n'est pas du coup du domaine de la religion, elle n'est pas dans les rapports de force, de domination, etc., etc. Elle est principalement dans l'existence de l'esclavage. Je pense que c'est là où il y a vraiment une différence profonde. L'Empire ottoman est héritier de l'Empire romain, via les Byzantins, etc., qui ne se sont jamais dit Byzantins, ils se sont toujours dit Romains. Et donc, l'Empire ottoman, en fait, est un empire, on pourrait dire vieille génération, ancien empire, donc inscrit dans un rapport à l'esclavagisme. Donc un esclavagisme, j'allais dire particulier, je ne sais pas si c'est pour le bon terme de dire un esclavagisme particulier, parce que ça donnerait l'impression qu'il y a des bons et des mauvais esclavagismes. Bon, l'esclavage est l'esclavage, hein. Mais un esclavagisme un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait le même que la traite des Noirs qu'on peut avoir en tête par la suite. Je pense que vous avez dû en parler avec
Ayri. Oui, bien sûr, absolument.
Je suppose.
Absolument. On en a parlé avec Ayri. Effectivement, c'est un esclavagisme qui est un peu, ce qui m'a semblé, hein, vous me corrigerez s'il le faut, qui est un petit peu, qui fait partie de la société, qui est inclus dans la société.
Tout à fait. En fait, ce qu'il y a de plus important à comprendre dans ce rapport à l'esclavagisme, c'est que le statut est distinct, le statut juridique est distinct du statut social. C'est l'un des points sur lesquels, justement, les orientalistes ont le plus bloqué. C'est un point d'incompréhension profonde. Hein. En Europe, le statut juridique, esclave ou libre, c'est fondamental. C'est ce qui va distinguer les hiérarchies, etc., y compris, et premièrement, la hiérarchie sociale. Dans l'Empire ottoman, le statut juridique est complètement distinct. Il est important, il ne faudrait surtout pas le réduire, parce qu'il dit quand même beaucoup de choses, mais il est complètement distinct du statut social. Ce qui fait que vous avez, à la tête de l'Empire, les pachas, les hommes les plus importants dans l'Empire en dehors du sultan, ce sont des esclaves. Et de la même manière, les femmes les plus importantes du harem, parmi les femmes les plus importantes, parce que moi justement j'ai travaillé sur les autres, mais l'essentiel des femmes du harem, donc qui vont être parmi les plus puissantes, sont des esclaves. Donc ce rapport à l'esclavage qui est extrêmement profond dans l'ensemble de la société ottomane, comme il était dans l'ensemble des sociétés musulmanes auparavant, et comme il était dans l'ensemble de la société romaine, d'ailleurs, produit vraiment une différence très profonde dans les rapports qu'on peut avoir avec la société occidentale, par exemple, qui connaît quand même l'esclavagisme. On ne devrait pas oublier qu'on n'a pas attendu en fait, la traite des Noirs pour le faire, mais dans des proportions complètement différentes et dans des rapports aussi complètement différents.
Oui, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on sent vraiment l'héritage romain.
Tout à fait.
Dans cette position des esclaves.
Mais les Ottomans se sont perçus très largement comme les héritiers des Romains. Alors pas uniquement les héritiers des Romains, d'ailleurs on ne voit pas pourquoi ils auraient décidé de choisir entre un héritage et un autre. Ils se considèrent comme les héritiers des Romains en même temps qu'ils sont les héritiers des Mamelouks et donc qu'ils ont récupéré le califat et en même temps ils sont les héritiers des Perses, etc. Donc y a pas, enfin, ils ne voient pas d'incohérence à faire le mix dans tout ça. Mais effectivement, et c'est très clair sous Mehmed II, par exemple, et donc c'est très clair dans toute cette première partie d'Empire, donc du XIIIe jusqu'au XVe siècle, qui est extrêmement importante parce que c'est elle qui va donner les bases idéologiques de l'Empire ottoman et de la dynastie ottomane, la manière dont elle va se penser en tant que dynastie et en tant qu'empire, en tant qu'État aussi. C'est le modèle romain qui prime, le modèle à travers l'exemple byzantin. Et ce n'est pas un petit modèle, c'est vraiment quelque chose de très profond dans la construction ottomane.
Oui, ça pèse son poids dans la société.
Tout à fait. Et puis, de toute façon, ils ont aussi ce modèle des sociétés islamiques qui, elles-mêmes, se sont inscrits dans le territoire, romain progressivement libéré, et qui, via cette inscription-là, a aussi repris le modèle romain. Donc, en fait, ils ont cet héritage romain qui leur vient un peu de partout. Il est inévitable, on va dire.
Mmh. Alors, puisqu'on parle donc de l'élite, il faut que je vous questionne un peu sur votre choix de travail, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur les femmes qui font partie de l'élite, les autres ne vous intéressaient pas ?
Je vais le dire de façon très violente, à ce moment-là, non. De plus en plus, maintenant. À ce moment-là, non, parce qu'à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était la question du pouvoir. Et donc, pour travailler sur le pouvoir, évidemment, la voie d'accès la plus privilégiée, on va dire, ce sont les femmes de l'élite. Et puis aussi parce que j'avais commencé à faire mon travail, alors ça remonte à loin maintenant, hein, c'était quand j'étais encore en master. Dans tous les cas, j'avais commencé à travailler du coup sur la question du pouvoir, et en fait il y avait eu un travail absolument central qui avait été fait par Leslie Peirce sur les concubines et reines-mères, toutes ces femmes esclaves justement du harem. En revanche, ce que j'avais noté, c'est qu'elle avait mis de côté la partie des princesses, donc les filles de sang. Et c'est un peu dans cet interstice que je me suis inscrite, pour compléter son travail, mais aussi parce que je me suis rendu compte que justement, et c'est là un des problèmes dans l'appréhension qu'on peut avoir, ne serait-ce que de l'élite et donc des rapports au pouvoir, c'est que l'essentiel des travaux, l'essentiel de la réflexion, s'est concentré et continue un peu à se concentrer sur des femmes qui sont d'origine esclave. Parce que l'essentiel de la production continue à travailler, à réfléchir à partir des femmes du harem, et la plupart des femmes du harem sont esclaves. C'est là où mes princesses interviennent, parce qu'elles ne sont pas esclaves, justement. Elles sont filles de sang, et elles sont d'ailleurs vraiment au sommet de la hiérarchie, parce qu'elles sont porteuses du sang ottoman, et d'ailleurs elles le transmettent. Donc ça m'a permis aussi de prendre conscience d'une chose, d'une difficulté qu'on a dans l'historiographie, c'est du coup de parler de cette élite qui ne serait pas esclave. On a un petit peu cette impression, et l'orientalisme a énormément contribué à renforcer cette image d'un univers palatial où le palace serait rempli exclusivement d'esclaves. Sauf qu'on oublie qu'il y a toutes les filles, sœurs, mères, etc., de grands dignitaires. Alors moi, j'ai pris le cas des sultans et du coup des princes, mais on a exactement aussi la même chose du côté des grands dignitaires, en fait, qui ne sont pas nécessairement esclaves. Alors, du côté des dignitaires eux-mêmes d'origines esclaves, les pachas, etc., c'est vrai qu'ils ont une assez forte tendance à reproduire le modèle et donc à avoir des concubines, ce qui ne veut pas dire que leurs enfants sont des esclaves. Leurs enfants sont des filles tout à fait honorables. À nouveau, le système patriarcal qui réapparaît. En revanche, ça serait quand même oublié qu'il y a tous ces dignitaires qui sont tous les dignitaires, on va dire, religieux, lettrés, tous ceux qui sont dans cette catégorie-là, qui ne sont pas du tout eux-mêmes d'origine esclave, qui ont des enfants, qui ont des familles qui n'ont absolument rien à voir avec l'esclavage, et qui d'ailleurs peuvent éventuellement avoir des concubines, mais pas tant que ça, parce que pour le coup, les quelques travaux qu'on peut avoir sur ces familles-là montrent au contraire des stratégies familiales, matrimoniales, qui sont, de façon peu surprenante, des alliances entre les familles. Donc à peu près les mêmes systèmes qu'on va retrouver dans les systèmes nobiliaires où le fait de s'allier avec telle et telle famille permet d'avoir des réseaux, de l'importance, de la puissance, etc. Et au fond, quand on regarde de plus près du côté des familles de dignitaires d'origine esclave, même s'ils ont cette tendance à utiliser les concubines pour se reproduire, c'est un terme très violent de dire ça comme ça, utiliser les concubines pour se reproduire, mais c'est un peu quand même l'idée dans laquelle ils se positionnent, eux-mêmes vont très rapidement aussi favoriser en fait les alliances entre familles de pachas. Donc on a un peu deux groupes qui s'allient assez peu entre eux, on a moins de passerelles entre les différents groupes, mais qui se constituent dans des réseaux qui sont structurés via les femmes. Donc on a toute une élite, pour résumer un peu tout ça, ce que je veux dire c'est qu'on a toute une élite de femmes qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'esclavage, qui ne sont pas déterminées par ce rapport à l'esclavage, qui sont au cœur du pouvoir, et qu'on oublie complètement, en fait. On les oublie parce qu'on a un problème de source, on pourra en reparler éventuellement, évidemment. Mais du coup, ce problème de source combiné avec ce poids de l'orientalisme qui ne fait que nous parler de ces esclaves, et le fait que le harem impérial qui est le plus accessible, le plus visible et le moins représentatif. Ça, on a tendance à l'oublier. C'est le moins représentatif parce que c'est le seul où il n'y a absolument que des esclaves, ou quasiment que des esclaves. Même les princesses, dont j'essaye désespérément de vous parler sans vous en parler, sortent du harem impérial. Donc c'est vraiment un univers qui est condensé autour de la présence esclave. Mais c'est très atypique, au fond. La plupart des grands palais ont des esclaves, mais qui sont sous l'autorité de maîtresses de maison, qui ne sont pas des esclaves, qui sont les filles, les sœurs, les épouses du maître de maison, et qui principalement ne sont pas esclaves. Mmh. Donc on a vraiment une omission complète de toute une partie du monde féminin, et pas du, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais pas du petit monde des paysannes, etc., hein, d'un monde qui a une certaine importance, ou dont on peut présumer quand même qu'éventuellement il est susceptible d'avoir de l'importance, parce, ne serait-ce que par les liens familiaux et l'entre-gens, dont on oublie complètement l'existence et qu'on résume de façon complètement erronée à « ce sont des esclaves ». Donc là, on a vraiment ce problème-là. Et en fait, mon entrée par les princesses, qui était loin d'être aussi réfléchie hein, quand j'ai commencé, hein, c'était un peu plus une stratégie d'opportuniste. Tiens, là, il y a quelque chose qui n'a pas été étudié, je vais aller là-dedans. Mais après coup, après pas mal d'années de thèse, je me suis rendu compte que ce personnage des princesses ottomanes, qui est rendu visible de façon tout à fait exceptionnelle du fait de leur position absolument au sommet hiérarchique de la société ottomane, féminine et aussi masculine, du fait de leur lien avec la dynastie, de leur sang ottoman. Du coup, ces princesses émergent dans les sources, on peut travailler sur elles, et à partir d'elles, en fait, on peut commencer à comprendre comment fonctionne le pouvoir féminin. Alors, c'est une notion sur laquelle on peut rediscuter, mais comment des femmes peuvent avoir du pouvoir, agir en tant que femmes, ou parce qu'elles sont femmes, ou par des réseaux, par des modalités à déterminer, justement, sans être inscrites dans un rapport à l'esclavage. Donc, en fait, les princesses me permettent de poser la question du pouvoir féminin en dehors du cadre de l'esclavage, et donc de donner un modèle à penser pour l'ensemble des autres femmes de l'élite qui sont dans des rapports assez similaires, qui fonctionnent de la même manière, mais pour lequel on a très très peu de témoignages et d'attestations et de documents, parce qu'elles ne rentrent pas dans les cadres d'écriture de l'histoire, qui est très largement une écriture palatiale. Donc c'est vraiment une petite porte d'entrée vers tout un univers sur lequel j'ose espérer qu'un jour on aura des travaux, mais pour le moment ça reste encore un peu, les sources restent un petit peu difficiles à trouver. Il y en a quelques-unes quand même.
Moi, j'ai beaucoup aimé les perles de nacre du sultanat. Je trouve que c'est une belle expression, en tout cas, pour les désigner.
Alors, elle n'est pas de moi. Les perles de nacre du sultanat, c'est...
Il ne fallait pas le dire.
Non, mais c'est vrai, j'avais repris le terme qui fait partie de la titulature qui est attribuée aux princesses ottomanes. Et effectivement, je le trouve très, très poétique, déjà. Et en même temps, très symbolique, parce qu'il les ramène à une condition un peu comme ça. Perle de Noël, c'est quelque chose de très, très précieux, très joli d'ailleurs. Mais c'est aussi quelque chose comme un petit bijou qu'on mettrait en plus sur une couronne.
C'est un objet.
Voilà. Mais c'est très réducteur. Donc c'est très intéressant pour la symbolique que ça donne. Mais, et en même temps, c'est un objet, mais ça les met bien dans un rapport. C'est un objet de la dynastie, le sultanat. C'est le terme saltanat, hein, c'est le terme ottoman. C'est pas une traduction de... Enfin, c'est pas moi qui réintroduis ce terme-là. Et ça montre bien que ce qui est au fond la limite un peu ultime de ma démonstration, c'est que ces femmes restent réduites. Elles ont du pouvoir en tant que membres de la dynastie, mais elles sont entièrement inscrites et réduites à leur rapport à la dynastie. Elles n'ont pas de capacité d'action, ou n'ont jamais cherché à en avoir. Ça, peut-être que, je sais pas, peut-être on pourrait réécrire l'histoire en se disant « et si jamais ». Mais pour, de ce que j'ai trouvé, il n'y a pas de sortie hors de la dynastie, et, enfin hors de la dynastie plus que hors du sultanat. C'est vraiment, les princesses ottomanes ne peuvent pas se penser, ne peuvent pas agir en dehors du rapport à la dynastie. Elles sont entièrement consumées par ce rapport, en même temps, elles n'ont pas de raison d'en sortir, parce que c'est ce rapport-là qui leur donne tout. Donc ça serait un petit peu absurde de vouloir se priver de ce qui fait leur particularité, leur pouvoir, leur position, etc. Mais c'est vraiment très flagrant, elles sont entièrement soumises par ce rapport-là.
Nous reviendrons d'ailleurs, vous avez évoqué sur l'historiographie et sur les sources vers la fin de l'émission, parce que c'est un peu ma manie.
C'est une bonne manie, c'est une excellente manie.
Oui, mais j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que ça, ben, ça démontre un peu le travail de recherche, qui est pas ce qu'on entend souvent. Vous cherchez quoi et est-ce que vous avez trouvé? On va en sortir de ça. On va réussir à en sortir. Alors, je vous propose une petite récréation musicale avec de la musique ottomane du XVIIe siècle. C'est un morceau qui a été transcrit par Dimitri Cantemir, qui était un prince moldave. Historien, musicien, musicologue, linguiste, etc., etc., et qui a relevé donc plein de musiques ottomanes à son époque. Son époque, c'était donc de, il est né en 1673, j'ai donc regardé, et mort en 1723, donc à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences, la position sociale des différentes catégories de femmes qui vivent dans le harem et qui tournent autour du sultan ?
Oui, alors je pense qu'il y a une manière assez simple de résoudre cette espèce de stratosphère complexe. Il y a grosso modo trois catégories, trois grands groupes, on va dire. D'un côté, on va partir par le plus bas, qu'on peut définir comme étant la catégorie professionnelle. Donc les esclaves au sens le plus basique du terme, celles qui travaillent. Enfin, celles qui sont là pour travailler, principalement pour être au service, c'est très important, des autres femmes. Donc cette catégorie, c'est les esclaves qui sont au service des autres catégories de femmes à l'intérieur du harem. Donc elles ne sont pas au service des hommes. On a un petit peu de tout, hein, celle qui va faire le ménage, celle qui va couper les cheveux, celle qui va servir l'eau, celle qui va servir le café. Bon, il faut penser qu'on n'a déjà pas tout le service d'aujourd'hui et que c'est les dames qui sont plus importantes ne font pas tout ça, vont faire beaucoup moins que tout ça, elles se font servir. Et donc, tout ce qui doit être fait est fait par ces femmes-là, avec toute une hiérarchie, principalement fondée sur à la fois les métiers et surtout l'ancienneté dans les métiers. Donc, il y a une forme de spécialisation assez rapide qui se met en place, on rentre dans un secteur, et quand on est dans ce secteur-là, on progresse en fonction de l'ancienneté. Ça, c'est la catégorie, on va dire, la plus basse, et la première, celle par laquelle on accède au harem. Ensuite, on a la catégorie des femmes qui sont issues de cette position-là, principalement, et qui sont celles qui vont avoir une activité sexuelle, auprès soit du sultan, soit des princes. Parce que les princes sont aussi au harem impérial, ou après, ont leur propre harem, mais pendant un moment, ils sont au harem impérial. Il faut bien les occuper. Donc, ces esclaves qui vont avoir des rapports sexuels, qui vont être inscrits dans un rapport sexuel ou dans l'exercice de leur sexualité à l'égard d'un des membres masculins de la dynastie, sortent de cette catégorie professionnelle, mais en sortent complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles deviennent des concubines, elles n'ont plus à faire toutes ces tâches-là. Donc, elles vont avoir leurs propres esclaves. Donc, Et là, on a à nouveau une hiérarchie entre les concubines qui sont de passage, qui sont les moins bien loties parce qu'elles vont pas obtenir grand-chose, et puis celles qui vont rester un peu plus longtemps. Et évidemment, tout est lié à la fois dans la durée et surtout, le plus important, puisque c'est lié à la durée, le fait de pouvoir avoir des enfants. Puisqu'à partir du moment où on a des enfants, bah là, on reste parce qu'on a des enfants. Avec cette petite différence que pendant un bon moment, jusqu'au milieu du XVIe siècle, les femmes, les concubines qui mettaient au monde un fils, cessaient d'avoir des relations sexuelles avec le sultan. C'est un système qui a, enfin, c'est un principe qui a été justement travaillé par les Slippers, dont je parlais un petit peu plus tôt, qu'elle a appelé le système d'une mère, un fils. C'est basé sur l'idée que chaque prince doit avoir le même niveau de chance que les autres, que ses autres frères, donc que ses autres demi-frères. Et donc, pour cela, il faut qu'il ait une mère qui soit entièrement dévouée à ses intérêts. Donc, dès qu'il y a un prince, toute relation sexuelle cesse, ce qui veut dire, ce qui explique aussi, le besoin de nouvelles concubines. En revanche, les filles ne posent pas de problème. Ce qui, au fond, introduit un petit déséquilibre entre les princes qui vont avoir des sœurs plus âgées et qui, du coup, vont pouvoir être mariées avec des dignitaires, et les autres qui se retrouvent avec un petit peu moins de liens. Cette rupture, c'est important, c'est Soliman le Magnifique qui l'a produit, parce qu'il tombe amoureux de Roxelane, Curée. Donc là, il change un petit peu tout, mais ensuite, ses successeurs continuent à répéter cette rupture. Donc il y a vraiment un changement de système à partir de là, et à partir de là, c'est plutôt au bout d'un moment, le sultan se lasse et construit plusieurs unités familiales. Mais alors, on a quelques sultans qui sont particulièrement fougueux, qui vont avoir beaucoup de concubines, voilà, actifs. Ils sont très rares. Et je pense que c'est ça qui est assez important de souligner. Ils sont quand même assez rares dans l'ensemble de la dynastie. On en a 3-4 peut-être dans tout l'ensemble de la dynastie. Donc plus d'une vingtaine de sultans quand même. La plupart des sultans ont un nombre assez limité de concubines. En tout cas de concubines, je veux dire, ces concubines pérennes, on va dire, entre guillemets. 4, 6, même 7, ça commence à être beaucoup. Et souvent, c'est un petit peu moins, et c'est pas forcément cumulatif. C'est-à-dire que ça arrive que ce soit une concubine pendant un moment, et puis ensuite, elle meurt, et ensuite, il y en a une autre. Donc, c'est 4 concubines sur l'ensemble d'une vie assez, assez longue. C'est pas non plus les folies bergères. C'est un peu plus structuré. Et puis ensuite, ces concubines qui ont des enfants, tout particulièrement celles qui ont des fils, sont en lice pour la compétition ultime, qui est celle de devenir reine-mère. Donc, j'avais un peu esquissé ce principe d'une mère à un fils. La suite de ce principe d'une mère à un fils, c'est le fait que la mère est centrale dans le développement politique de son fils, pensée telle qu'elle dès le départ. Et donc, le fils qui monte sur le trône, celui qui gagne, nécessairement sa mère a aussi une position centrale, puisque c'est elle qui l'a suivie depuis le début. Donc cette mère va prendre une position tout à fait reconnue dans l'échiquier politique, c'est le statut de validée sultane. Et elle a un devoir, un droit d'action, en tout cas de conseil, d'intervention à l'égard de son fils. Ce qui veut dire qu'en cas de régence, ou en cas de sultan un petit peu défaillant, la dynastie ottomane est très claire dans comment procéder. C'est la reine-mère qui intervient en tant que régente. On n'a pas toutes les tensions qu'on peut avoir en France. On dit, est-ce que c'est la mère, mais il faut lui mettre Catherine de Médicis, etc. Oui, mais la mère, mais en même temps, c'est une femme, donc il faut lui mettre un conseil, etc. Non, c'est vraiment très clair, la reine-mère est la première interlocutrice pour aider, accompagner son fils en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas nécessairement des conseils par ailleurs, mais elle est institutionnalisée dans cette position. Ce qui veut dire que pendant un bon moment, les tensions vont être entre concubines pour avoir le poste de reine-mère, et ensuite entre la reine-mère et la concubine favorite, celle qui a les princes aînés et qui a le plus de chances de devenir reine-mère, parce que là, il y a déjà des tensions de pouvoir qui se mettent en place. Petit détail, peut-être pas très important, mais il y a une petite évolution de ce système vers la fin de l'Empire, avec l'instauration du seigneurat, puisque du coup, les princes ne se font plus la guerre. Ils ne sont plus en rivalité les uns entre les autres. C'est l'aîné des princes dans la fratrie, par fratrie, qui monte sur le trône. Donc la succession est réglée, ce qui veut dire qu'on assiste un peu à une recomposition des tensions entre femmes. Plutôt que de se positionner dans la tension entre la reine-mère et la favorite, On assiste plutôt à des alliances entre harems, en fait. Donc, le harem autour d'un prince fait bloc pour soutenir les intérêts du prince face au harem du sultan, qui lui-même a, du coup, la reine-mère, si elle est encore en vie, les différentes concubines, avec les filles, etc., etc. Donc, on a vraiment plutôt des espèces de superstructures féminines qui s'allient entre elles contre l'autre superstructure féminine. Donc, il y a une petite évolution, quand même, des lieux de tension, on va dire, entre femmes. Et puis, donc, la troisième catégorie, ce sont ces femmes qui n'ont rien à voir avec l'esclavage. Et donc, ces princesses qui portent le titre de princesse dès le XVe siècle. Elles sont appelées sultanes. Donc, elles ont bien un titre spécifique qui les distingue du reste du harem impérial, avec cette particularité importante qu'elles naissent au harem, mais qu'elles en sortent. Elles peuvent y revenir si elles sont veuves, et encore, si elles le souhaitent. Elles ne sont pas complètement obligées. Certaines le font, mais beaucoup décident de vivre leur vie dans leur palais. Elles ont tous leurs avantages, elles n'ont pas d'intérêt spécifique à rentrer. En revanche, ce sont les seules femmes de pouvoir à sortir du harem et à continuer à avoir des interactions régulières entre le harem impérial, les femmes du harem impérial, et le monde de l'idée. Donc ce sont vraiment des interlocutrices privilégiées et pensées pour être cet intermédiaire entre les mondes, en fait. Ce ne sont pas tout à fait les seules, parce que ces concubines professionnelles, la toute première catégorie dont je parlais, en fait, finissent par sortir du harem. Et on l'oublie parce qu'on a l'impression qu'elles sont condamnées à vie à rester au harem, et puis qu'au mieux, elles vont avoir des relations sexuelles, et sinon, vont devenir vieilles filles. Pas du tout. Régulièrement, le harem fait des sorties de femmes. Pas très charmant de le dire comme ça. Mais...
du nettoyage.
Voilà, exactement. C'est un petit peu ça. Il faut un peu faire de la place. Et donc, celles qui sont les plus âgées sont mariées à des hommes qui ont suivi le même processus, la même carrière côté masculin, à l'intérieur du harem. Généralement, elles sont mariées par leur maîtresse, c'est-à-dire par les femmes au service desquelles elles étaient. Et elles participent aussi, donc elles sortent du harem, et elles participent d'un autre entre-gens et donc d'un autre réseau de circulation des informations et des contacts à plus bas niveau, mais qui est tout aussi important parce qu'ils participent aussi de la structuration de l'ensemble de cet univers. Donc on a deux niveaux, en fait, où il y a une sortie qui permet des interactions, c'est le plus bas, et celui des femmes qui sont, en fait, au sommet, c'est celles qui n'ont jamais été inscrites dans un rapport sexuel.
Alors, en fait, vous avez anticipé sur ce que je voulais vous demander, mais c'est très bien, ce lieu fermé dans lequel elles vivent, elles entretiennent donc des relations avec leur entourage. Alors, vous avez évoqué la famille avec cette complexité, ça pose un peu problème pour elles. Puisque à partir d'un certain moment, elles ont une chance, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est un peu problématique, parce qu'il y a des concurrences qui se font, je pense, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du harem, de la cour.
Alors, la famille ottomane, c'est là où on rentre un peu dedans. Mais c'est là où on rentre vraiment dans peut-être ce qui est le plus fascinant, parce que le modèle de la famille ottomane est tout à fait atypique. Et il est vraiment fascinant pour ça. Il est tout à fait atypique pour des sociétés de cour, pour des sociétés impériales, pour des sociétés, y compris patriarcales. C'est vraiment un modèle très, très spécial. Il faut que je précise quand même tout de suite, parce que c'est très important, la famille, dans tous les cas, c'est dans le système ottoman, c'est le cadre de référence, c'est le cadre d'action principal. Pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Ce sont toutes ces sociétés-là, et c'est pour ça que je disais dès le début que ce sont des sociétés de cour qui fonctionnent sur la proximité avec des individus. Ça veut dire que ce sont des sociétés qui fonctionnent sur des logiques clientélistes. Donc la capacité à avoir un contact, privilégier un accès direct à une personne d'importance, détermine un certain, ou produit un certain pouvoir, en fait. Donc, et ça, c'est largement, la famille n'est pas le seul moyen de produire ces liens directs, c'est quand même l'un des plus reconnus ou considéré comme étant le plus solide. Donc c'est principalement ou très largement à travers la famille que vont se construire justement les modalités d'action. Ceci étant, donc pour le système ottoman, pour la dynastie ottomane, on a un phénomène assez particulier. On a une famille qui ne fait pas famille, ne cherche pas à faire famille, et au contraire, qui produit de l'exclusion, systématiquement, mais de l'exclusion en masse. Donc c'est une famille qui est réduite à son plus strict minimum, ce qui est très atypique pour l'ensemble des contextes de l'époque. Concrètement, qui est-ce qui reste dans la famille et qui est considéré comme étant membre de la famille ? du point de vue de la dynastie ottomane, c'est le sultan, ses filles, ses fils, et c'est tout. Et comme les sultans régulièrement assassinent leurs frères, ça veut dire que toutes les lignées collatérales masculines disparaissent régulièrement. Donc on a vraiment une famille extrêmement étriquée, réduite à son strict minimum, mais dont le strict minimum dérive largement des femmes. C'est-à-dire que vous enlevez les femmes de sang de cette structure-là, il ne reste quasiment plus rien. Et là, la famille a vraiment un problème de création de liens. Or, il y a besoin de créer des liens. On a besoin de liens directs et de liens par la famille, parce que ce sont les plus solides. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour tous ces autres dont j'ai dit qu'ils sont exclus de la famille ? Ils sont exclus, mais avec des variations. On a la reine-mère, qui a un statut tout à fait particulier, puisqu'elle n'est pas considérée comme étant membre de la famille en tant que concubine. Elle le devient de façon rétrospective quand son fils monte sur le trône. Là, à partir de là, on considère qu'elle fait partie de la famille de façon assez étrange, c'est-à-dire que son fils, sultan, c'est pas son fils, c'est le sultan, produit de la filiation, inversée. Et c'est bien en tant que sultan. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est assez atypique. Du côté des filles, et donc des descendantes de seconde génération, de ce que j'ai appelé descendantes indirectes, c'est pas forcément un très bon terme, mais ça permet de indirect par rapport à, quand on se met par rapport au sultan, qui sert de référence. Les filles elles-mêmes sont pleinement de sang, ça, y a aucun souci. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour leurs filles et les filles de leurs filles ou les filles de leurs fils, etc. Toute la partie, tout le lignage masculin de ces filles est exclu. On les attribue, on les met du côté de leur mari, en fait, d'une certaine manière, avec une espèce de forme de chantage, c'est-à-dire que s'ils veulent avoir du pouvoir, s'ils veulent rentrer dans les structures de l'État, il faut qu'ils se fassent reconnaître, qu'ils reviennent qu'ils rentrent dans les rangs des esclaves du sultan, ce qu'ils ne sont pas, techniquement. Mais il y a une espèce de chantage. Vous pouvez rentrer, mais ça veut dire se faire reconnaître comme. Donc là, il y a vraiment déjà une tension un peu particulière avec des textes très clairement qui disent on se méfie d'eux. On ne va pas leur donner de poste très important, on va leur donner quand même quelque chose parce qu'ils sont liés à la famille d'une certaine manière, mais pas trop parce qu'il y a toujours cette appréhension qui est très intéressante, ce sont des dangers. Et là, on se pose la question, pourquoi ce sont des dangers ? Puisque si on en suit la logique patrilinéaire, ils n'ont aucun risque, enfin ils ne représentent aucun risque à l'égard de la dynastie. Ils sont issus de filles, donc ils n'ont pas de droit sur le trône. Donc cette question de est-ce que les filles ou non auraient le droit à la succession, au fond on n'en sait rien. Il n'y a rien qui dit qu'elles en sont exclues. La pratique montre bien que ce sont des hommes, mais la pratique montre que ce sont des hommes parce qu'il n'y a jamais eu de situation où il n'y a pas eu d'hommes. Donc là, en faisant l'histoire par hypothèse, et si ? Et l'histoire par hypothèse est très importante parce que la loi salique en France a été élaborée dans un contexte où, justement, il n'y avait plus d'hommes. Donc c'est bien parce qu'il n'y a plus d'hommes. Ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas un droit égal au prince, de toute évidence, mais il n'y a pas nécessairement d'exclusion complète ou évidente. Il reste la possibilité qu'éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose. Et c'est suffisamment présent pour qu'il y ait des ordres qui disent on va quand même les mettre de côté, et s'ils veulent absolument avoir de l'importance, il faut qu'ils redeviennent esclaves du sultan, donc qu'ils reviennent et donc qu'ils nient par eux-mêmes leur capacité à devenir des concurrents. Donc, il y a quand même une gestion spécifique pour la partie masculine de ces enfants issus, de ces descendants issus des princesses. Pour la partie des filles, et là c'est presque encore plus fascinant parce que c'est pas tout à fait logique, les filles et même les petites filles de ces princesses vont être rattachées à la dynastie d'une certaine manière. On va reconnaître leur lien avec la dynastie et elles vont porter un titre qui est un titre construit à partir du titre sultanien, donc qui permet de montrer qu'elles sont liées à la dynastie sans être complètement membres de la dynastie. Et là, on se dit, c'est pas cohérent. Déjà, c'est pas cohérent par rapport à leurs frères et c'est pas cohérent surtout parce que si on suit la logique patrilinéaire, leur père, par ailleurs, est un esclave. Donc c'est absolument pas logique. Parce que la dynastie considère que son sang est prioritaire. Au fond, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, mais même cet esclave-là, il est moins important. C'est le sang ottoman est tellement puissant qu'il produit, même à la deuxième génération, même après, il continue à produire quelque part des rejetons de ce sang. Il n'est pas tout à fait pur, mais quand même, il est là. Au bout d'un moment, ça pose un problème, parce qu'il y a beaucoup de princesses, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de princesses, et donc se pose la question de comment classer, hiérarchiser toutes ces femmes qui sont en deuxième, troisième, quatrième génération. Et les Ottomans vont finir par trancher de façon assez directe. On dit, bon, on s'arrête à la deuxième génération. Donc on a les filles de sultans et les petites filles de sultans, sans distinction, avec exactement la même position entre les filles qui sont issues de filles et les filles qui sont issues de princes. Ce qui est, au fond, une remise en cause du principe de patrilinéarité. Donc là, on a une petite tension sur cette logique-là. Je suis en train de dire que la logique patrilinéaire n'est pas en place dans la dynastie ottomane, elle l'est, mais avec ses limites qui restent encore un petit peu à expliquer. Je n'ai toujours pas bien compris pourquoi, si ce n'est un peu de nécessité, de besoin, d'intérêt d'utiliser ces femmes, ça reste un petit peu étrange. Et surtout très surprenant. Et puis pour les autres, donc les concubines qui servent à produire les enfants, pour les princes et les sultans, et les esclaves qui deviennent les époux des princesses, eux, ils sont complètement exclus de la dynastie. Ce ne sont pas des membres de la dynastie, ce sont des associés, mais qui restent en dehors, ils restent vraiment sur le pas de la porte. C'est vraiment très clair, et d'ailleurs, ils n'ont aucun titre qui les rattache à la dynastie. On leur crée un titre pour les concubines, plus ou moins, mais c'est moins marqué. Pour les époux des princesses, on leur crée un titre qui les associe à la dynastie, le titre de gendre, voire de gendre impérial. On se dit très clairement leur relation, ce qui est très honorifique, hein, qui les met quand même au-dessus de tout un tas d'autres, mais qui les garde en dehors. Si vous êtes le gendre, vous n'êtes pas le fils, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, vous restez sur le pas de la porte. Donc c'est vraiment une famille très 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 étriquée.
Oui, c'est une gestion invraisemblable, tout ça.
Oui, et c'est une famille, par ailleurs, je rajoute, qui, les sultans, du fait de l'ensemble du système familial, successoral, etc., comme il n'y a pas de lignée collatérale, qu'on se débarrasse des frères régulièrement, l'ensemble est lié vraiment sur... Donc c'est le lien de filiation qui prime.
Qui est direct, oui.
Tout à fait. Mais c'est aussi, ça veut dire aussi que le principal concurrent du sultan... Ce sont ses fils.
Eh oui.
Donc la dynastie produit régulièrement de la tension, de la tension politique, donc de la rivalité entre frères, et entre, donc de façon horizontale, et entre père et fils. Du coup, les liens masculins sont détruits en fait par cette rivalité, par cette tension qui est systématique et qui produit de la peur, qui produit et on a évidemment régulièrement des princes qui font assassiner leurs demi-frères, mais on a aussi régulièrement des pères qui font assassiner leurs propres fils pour rivalité ou pour soupçon de rivalité. Donc il y a vraiment une tension très forte au niveau des relations masculines. Donc c'est une famille qui ne fait pas famille pour tout ce qui est au niveau des liens masculins. Ce qui veut dire que les sultans sont... Enfin, l'ensemble des liens sur lesquels ils peuvent s'appuyer, des liens familiaux, sont les liens qui sont construits par les femmes. Donc on voit l'importance des liens féminins dans cette dynastie. Sinon, ils sont seuls.
Ah, oui,
seuls, entourés d'esclaves.
Ah ben oui. Oui, s'ils ont supprimé les frères...
Voilà.
Et
les sœurs...
Et ceux qui gênent.
Alors la mère a un rôle absolument central. Hein, ce sont complètement des fils à leur maman. Alors complètement... Les sœurs ont un rôle aussi extrêmement important. Évidemment, les sœurs de sang, les sœurs complètes, on va dire. Mais les demi-sœurs peuvent aussi fonctionner. Hein. Elles ont aussi une importance. Elles ont vraiment un rôle éventuellement de conseillère quand la mère disparaît, où on s'appuie sur elles. Et c'est pour ça que ces princesses... Donc là, on en vient à ces univers en dehors de la famille, et donc ce lien entre les liens personnels, les liens de famille et le pouvoir... C'est pour ça aussi qu'elles ont un tel pouvoir, c'est qu'elles ont accès de façon presque illimitée ou très facile au sultan, évidemment, mais aussi au prince, mais aussi à la reine-mère, mais aussi à tous les grands dignitaires, etc. Et en fait, je l'avais remarqué pour un certain nombre, quand j'arrive à voir un peu cette cartographie extrêmement réduite, parce qu'on a peu de connaissances de l'ensemble de ces liens, hein. Mais quand on commence à mettre les liens entre les différentes personnes... On a vraiment un univers qui est complètement interconnecté. Les princesses ont accès, ont connaissance via les liens familiaux à au moins la moitié des grands dignitaires de l'Empire, qui est mariée à telle sœur, à telle cousine, à telle voisine, à telle petite fille, à telle etc., etc. Donc, elles ont, et quand elles ont un problème avec l'un, qui généralement, dans un lien de famille élargie, elles vont voir leur famille plus proche. Et là, j'avais étudié sur des exemples d'une princesse qui n'est pas très puissante, qui est toute jeunette en plus, donc qui est assez intéressante parce qu'elle représente un peu la moyenne de ce qu'une princesse est capable de faire, qui est documentée grâce à un texte complètement exceptionnel de Devlia Çelebi. Et elle a un conflit entre le grand vizir et son mari. Son mari s'empresse de la tenir au courant directement, ce qui est déjà un petit indicateur, avec d'autres personnes évidemment. Elle réagit tout de suite. Elle va voir le grand vizir qui la reçoit sur place tout de suite, hein, sans attente. C'est quand même, le grand vizir a d'autres choses à faire, mais il la reçoit tout de suite dans le harem. Elle l'incendie proprement et de façon voilà. Ce qui indique bien, c'est elle, la princesse. Et lui, ce n'est jamais que le grand vizir, donc un esclave de son père, son frère, etc. Et elle le menace clairement en disant « J'aurai ta tête !» Elle va faire le tour, ah oui, du harem, c'est son neveu à ce moment-là. Elle va voir son neveu, le sultan, elle va voir la reine-mère, elle va voir le chef des eunuques noirs, elle fait le tour de toutes ses connaissances, et 3 jours après, elle a gain de cause. Et ce n'est absolument pas une princesse particulièrement investie. Alors, évidemment, elle a gain de cause parce que ça intéressait d'autres factions. Mais justement, c'est parce qu'on est clairement justement dans un système de cours où c'est un système qui est complètement pris par un réseau de clientèle et de tensions entre les clientèles. Donc il y a toujours une clientèle face à l'autre. La pièce maîtresse, c'est le sultan. Qui est là, qui va répartir les tensions et dont son rôle principal, c'est de structurer les rapports de force entre ces différentes et de s'assurer que ces rapports de force lui est profitable. Plus il est puissant, plus il impose. Moins il est puissant, plus ces différentes clientèles ont de l'importance. Mais du coup, on voit en quoi les princesses structurent l'ensemble de ce système, puisque ce sont elles qui vont être mariées à l'ensemble de ces grands dignitaires. Donc elles viennent structurer et relier l'ensemble de ces grands dignitaires au sultan. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de révolution des grands dignitaires. Il y a eu des révolutions par le bas, pas par les pachas.
Je veux vous proposer le chant du harem, qui est donc chanté par un ensemble des femmes d'Istanbul. Ça s'appelle comme ça, Ensemble des femmes d'Istanbul. Quel pouvoir ont les femmes ? Quoi est-ce qu'elles influencent, vraiment ?
Alors, pour répondre à cette question, le plus important, c'est de répondre à la question par une autre question, comme d'habitude. C'est beaucoup plus malin. Non, le premier problème, en fait, c'est déjà d'être clair sur ce qu'on entend pouvoir. Qu'est-ce que c'est que la définition ? Comment on définit la notion de pouvoir ? Avec une tension qui est très forte dans le champ historique... qui en général, cette notion assez mauvaise en fait de pouvoir informel, qui irait avec un pouvoir formel, mais ça ne se dit jamais, on ne parle jamais de pouvoir formel. Ça serait plutôt du coup l'idée de pouvoir institutionnel qui s'opposerait à une notion d'influence indirecte. Et donc on en vient justement à cette idée de direct-indirect. On a un problème du coup d'une espèce de rupture dans ce qui est en fait visible, évident, construit et reconnu de façon officielle, et tout le reste, avec cette idée que tout le reste existe. Et un peu facilement dans l'historiographie, là c'est vraiment mon point de c'est mon coup de gueule, on va dire, c'est que l'historiographie pour les sociétés ottomanes et plus généralement pour les sociétés musulmanes a un peu tendance à considérer que tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'institutionnel n'existerait pas vraiment dès lors qu'on parle des femmes. Bizarrement, c'est quand on parle des femmes, là. Donc, il y a une espèce de... Tout ce truc d'informel, là, tout ce qui gravite autour, ça n'existe pas, comme si Macron n'avait pas ses conseillers et que ses conseillers n'avaient pas une importance dans la direction de la politique. Eh bien, c'est un peu pareil, en fait. Donc, l'essentiel du pouvoir féminin, je ne vais pas mentir, ce n'est pas un pouvoir institutionnel. Elles n'ont pas de fonction, sauf la reine-mère, dans des cas particuliers. Mais à l'exception de la reine-mère, donc, ces femmes n'ont pas réellement de fonction institutionnelle. Elles n'ont pas un poste, un office de pacha, elles n'ont pas tout ça. Ceci étant, elles ont un rôle politique qui est tout à fait reconnu et accepté sans le moindre problème dans la société ottomane. Et ça m'a pris du temps à bien le comprendre. C'est tout ce qui relève de ce pouvoir informel, donc de ce travail d'influence via, justement, les réseaux, notamment des familles, et les réseaux d'interconnaissance d'entre gens. Donc c'est un pouvoir indirect qui met beaucoup de temps à se percevoir, à se lire. Et ce qui est le plus... C'est là où, en fait, je trouve que l'historiographie a été un peu trop rapide en besogne. C'est qu'elle s'est un peu lancée dans une lecture. Je suis un peu en train d'anticiper sur la question de l'historiographie, forcément, mais elle s'est un peu lancée dans une lecture de dire « les sources n'en parlent pas ». Donc, ça n'existe pas, et donc, circuler, il n'y a rien à voir. Or là, justement, les sources n'en parlent pas, parce qu'en partie, il n'y a pas la place dans le type de source qu'on produit à ce moment-là, mais aussi, surtout, parce que c'est complètement évident. Et je vais reprendre mon exemple de Macron, mais on sait bien, ou des lobbies, on sait bien l'existence du lobbying, on sait leur place, on a du mal, on aurait beaucoup de mal à le documenter, parce que, par définition, ce n'est pas une action qui laisse par écrit ce qu'elle fait. Et donc du coup, on a exactement ce problème-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle politique et qu'il n'est pas reconnu. Et le fait est que, en fait, l'autre problème de tout ça, c'est qu'on oublie que la société ottomane, fondamentalement, est régie par un système clientéliste. Elle fonctionne, elle a toujours fonctionné du début jusqu'à la fin sur une logique de clientélisme qui n'est pas la seule, qui fonctionne de pair avec une logique qui a été beaucoup plus mise en avant en partie par l'orientalisme et ensuite par tout un tas d'historiens qui ont été un peu fascinés par ce système de la méritocratie, ces esclaves qui sont promus d'après leur mérite et qui auraient permis cet âge d'or de la société ottomane parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont forts, etc., etc. C'est tout à fait vrai, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il faut être bon, mais être bon ne suffit pas parce qu'il y en a beaucoup qui sont bons. Il faut être bon et il faut avoir les bons contacts et les bons liens. Et là, les princesses, tout particulièrement, mais toutes ces femmes de l'élite qui ont des liens partout, à la fois par la famille et par les connaissances et par les esclaves, sont extrêmement bien placées. Et on voit que les hommes font leur réseau d'entre gens quand ils en ont besoin, créer leur clientèle. Et en parallèle de leur clientèle, ils ont la clientèle féminine qui vient participer à leurs efforts, qui vient la décupler ou alors chercher leurs propres intérêts. Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Quand il y a des tensions, là, pour le coup, ça devient plus compliqué. Donc, penser la politique, c'est principalement, pour la question des femmes, c'est principalement la penser à travers ce contexte de rôle informel, de rôle clientéliste, en fait, de comment elle s'insère dans une structure clientéliste. Alors, la diplomatie rentre... En fait, encore là-dedans, puisque la diplomatie rentre via les interactions de famille, c'est toujours un petit peu la même chose. La question du militaire, qui est souvent invoquée justement pour dire finalement, les femmes n'ont pas vraiment de pouvoir, puisqu'elles n'ont pas d'action militaire, etc., elles n'ont pas la capacité de faire la guerre. Alors, elles n'ont pas la capacité de faire la guerre, mais elles ont la capacité d'influer sur le fait de faire ou non la guerre, de financer la guerre, de construire des forteresses. Donc le secteur militaire ne leur est pas extérieur et ce serait, au moins pour certaines, ce serait malhonnête de penser qu'elles ne pensent pas la guerre. Simplement oui, et là, il ne faut pas oublier qu'on est quand même, de fait, dans une société extrêmement genrée et qui détermine les rapports de sexe et ce que les sexes peuvent faire. Non, les femmes ne font pas la guerre, ne sont pas censées faire la guerre. Et d'autant moins quand on est de l'élite. Ceci étant, on a quand même des concubines qui ont suivi les sultans en campagne, dont on ne sait pas trop, mais au moins au bout de campagne, qu'on ne sait pas trop dangereux. D'ailleurs, le sultan ne va pas forcément toujours plus loin. Au bout d'un moment, il accompagne juste au début, puis après, il reste là. Donc, on a quand même des petites attestations comme ça de femmes qui ont pu être près des militaires, on va dire. Et alors, dès qu'on sort de l'élite, certains travaux laissent entendre qu'on a des cas de femmes qui seraient travesties ou qui seraient débrouillées pour participer à l'effort militaire. Il semblerait que ce soit quelque chose de beaucoup plus tardif, plutôt fin d'Empire. Mais là encore, j'ai bien, il semblerait. On n'a pas de source avant, donc peut-être qu'il y avait aussi ces phénomènes-là avant. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est lié ou qui va être de plus en plus lié. C'est un thème qui va être, qui va se raccrocher déjà au discours nationaliste et donc à l'idée que les femmes aussi ont leur rôle à tenir dans la défense de la nation, etc. Donc on change déjà... Pour moi, on change déjà de monde, on sort déjà de monde. Au niveau de la culture, les princesses ont un rôle, enfin les princesses et l'ensemble des femmes du harem et de l'élite ont un rôle important qui est principalement, ou qui a principalement été étudié via les fondations pieuses. Donc les fondations pieuses, les waqf ou waqf, waqf en arabe, c'est tout le système de philanthropie et de mécénat qui permet de construire tout ce qui relève en fait du collectif depuis évidemment les mosquées, les lieux de prière, etc. Mais aussi, et c'est presque aussi important, voire plus, tout ce qui va être de l'ordre des écoles, dans écoles primaires, écoles université, etc. Les soupes populaires. On va voir aussi les hammams, on va voir aussi les mausolées, on va voir aussi les ponts, les caravansérails, tout ce qui relève en fait du collectif est produit via ces fondations pieuses. Et les femmes de l'élite, tout particulièrement celles du harem, se sentent investies par un rôle spécifique à l'égard de ce type d'action en tant que femmes d'élite. L'interaction via la culture en dehors du mécénat est plus complexe à sentir, à repérer, parce qu'on manque de documentation, et surtout parce qu'il faudrait travailler sur d'autres types de personnages, notamment sur tout cet univers de femmes, d'épouses, de filles, d'ouléma par exemple, pour les quelques exemples qu'on a, bénéficient d'une culture assez sophistiquée, parce qu'en fait elles bénéficient de la formation qui gravite autour d'elles, et ont tout un rôle de formatrice pour les autres femmes de leur environnement. Mais là, vraiment, on manque de documentation ou on manque de personnes qui aient travaillé spécifiquement à la recherche de cette documentation pour savoir comment ça marche, dans quelle proportion, qui, quoi, quel type de savoir, etc. Donc il y a encore tout un pan là, sur ce domaine-là qui pourrait être travaillé.
Oui, c'est un champ ouvert.
Oui.
Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que, écoutez, j'ai passé une heure très très intéressante. Je pense que nos auditeurs aussi.
Ben j'espère.
Et donc, ma porte reste ouverte, bien sûr, pour vos recherches, pour venir exposer à nos auditeurs vos recherches.
Je n'y manquerai pas.
Et ben, mais j'espère bien. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.